Changer nos regards, Michel Halberstadt.
Bonjour, bienvenue dans le jour 9 de notre émission Les 10 films qui ont changé le monde. Le film du jour, eh bien, c'est une tragédie sur le pouvoir et la famille. C'est le film qui a inventé le concept de sequel, la suite, et de prequel, le passé. Si un film a changé nos regards sur les films de gangsters, c'est bien celui-là. Au grand bonheur de la mafia qui soudain devenait mythique, légendaire, voire romantique. Mafia est d'ailleurs un mot qui n'est jamais prononcé dans ce film. Pas une année ne passe sans que je le revoie, ce film et ses films, puisqu'aujourd'hui on parle du Parrain, de Francis Ford Coppola, sorti en 1972. Avec nous, aujourd'hui, en direct jusqu'à midi pour parler du Parrain, je suis ravie d'accueillir Arnaud Desplechin. Bonjour.
Bonjour Michel.
Arnaud Desplechin, vous êtes né à Roubaix et vous venez à Paris suivre des cours de cinéma à Paris 3, où vous avez notamment suivi les cours de Serge Danet. Puis c'est l'IDEC en 81, vous êtes diplômé section réalisation et prise de vue. Et c'est là que vous croiserez de nombreux futurs collaborateurs comme Noémie Lvovsky, Pascal Ferrand ou Éric Rochant. En 91, un moyen métrage, La vie des morts, avec Marianne Denicourt, Emmanuel Devos, Emmanuel Seigné, vous fait remarquer, vous passez au premier plan à Angers et à la semaine de la critique, le film obtient le prix Jean Vigo. En 92, premier long, La Sentinelle, coécrit avec Pascal Ferrand, il y a Emmanuel Salinger, Noémie Lvovsky, le film est en compétition à Cannes, il emportera le prix Georges Sadoul et le César du meilleur espoir féminin pour Emmanuel Salinger. En 96, Comment je me suis disputé ma vie sexuelle avec Mathieu Amalric, Marianne Denicourt, Emmanuel Devos, deuxième compétition à Cannes, puis Festival de Toronto, de New York, César du meilleur espoir masculin pour Mathieu Amalric, on commence à parler de la génération Desplechin. En 2000, c'est Esther Kahn. Vous tournez en anglais avec Summer Phoenix et Ian Holm. C'est le passage à l'âge adulte d'une jeune fille issue d'une famille juive destinée à être couturière qui découvre le théâtre et l'amour. Troisième sélection cannoise en compétition, un film que j'adore absolument. En 2003, c'est le tour de Léo en jouant dans La Compagnie des Hommes qui fait l'ouverture de Un certain regard à Cannes. Et il sort en 2004, en même temps que Roi et Reine avec Mathieu Amalric et Emmanuel Devos. Deux récits, l'un burlesque, l'autre tragique, sur un homme et une femme qui se sont aimés. Mathieu Amalric obtient le César du meilleur acteur et le film obtient le prix Louis Deluc. En 2007, c'est un documentaire, L'aimé, l'évocation de votre grand-mère et d'une demeure familiale sur le point d'être vendue, la vôtre. Le film va à Venise et remporte le prix du meilleur documentaire. 2008, un grand moment, un conte de Noël. Une réunion de famille autour de la mère, Catherine Deneuve, et de ses enfants, notamment son fils, Mathieu Amalric, longtemps banni de la famille par sa sœur, Anne Consigny. Est-ce le sequel de La vie des morts? On en reparlera tout à l'heure. En tout cas, le film est en compétition cannoise pour la cinquième fois. En 2010, vous êtes membre du jury du Festival de Venise que préside Quentin Tarantino, la classe. En 2012, c'est Jimmy P, tourné aux États-Unis avec Mathieu Amalric et Benicio Del Toro, toujours en compétition à Cannes. 2015, trois souvenirs de ma jeunesse, une sorte de prequel à Comment je me suis disputé, qui sera à l'ouverture de la quinzaine des réalisateurs et vous obtiendrez le César du meilleur réalisateur. En 2015, vous présentez à la Comédie Française Père de Strindberg. En 2016, vous êtes membre du jury du Festival de Cannes présidé par Georges Miller. En 2017, vous faites l'ouverture du Festival de Cannes avec Les Fantômes d'Ismaël, qui réunit Mathieu Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg et Louis Garrel. 2019, c'est Roubaix une lumière, en compétition à Cannes, avec Léa Seydoux, Roche Dizem et Sarah Forestier. Roche Dizem remportera le prix du meilleur acteur au César. En 2020, nouvelle mise en scène à la Comédie Française, Angels in America, d'après la fameuse pièce de Tony Kushner, spectacle à peine interrompu par le premier confinement. Et puis cette année, en 2020, vous inaugurez une nouvelle section cannoise hors compétition qui s'appelle Cannes Première, avec Tromperie, qui réunit Léa Seydoux et Denis Podalydès, qu'on verra en salle le 29 décembre. Alors, pourquoi vous invitez à parler du Parrain, Arnaud Desplechin? Parce que la notion de famille est au cœur de vos films, parce que vous aimez le cinéma américain, les acteurs américains, et que vous aimez l'artisanat du cinéma. Alors, quand avez-vous découvert le Parrain? Est-ce que vous vous en souvenez?
Je ne l'ai pas vu à sa sortie. Je me souviens, le film est sorti en 72, j'avais 11 ans, et ma mère était contre, vous voyez, parce que c'était un film qui était pour la mafia et pas contre la mafia. Le film c'était pas un film de dénonciation, vous voyez. Le film avait pas un message politique clair. Donc du coup, c'était très mal de raconter l'histoire de mafieux qui allait pas en prison à la fin et qui est pas un happy end de la société, etc. Donc je l'ai pas vu. Et donc je l'ai vu à sa ressortie quand les films sont ressortis. Je crois que j'avais noté, c'était quelques années, je devais avoir 19 ans ou un truc comme ça. Les Parrains 1 et 2 sont sortis. Et là, je les ai découverts à ce moment-là. Donc, à mon arrivée à Paris, c'est là où je les ai vus, mais il y avait déjà, donc c'était peu de temps ou après Apocalypse Now qu'il y a eu la ressortie. Donc, ouais. En fait, les films se mélangeaient.
Début des années 80, quoi.
Voilà, c'est ça, 80. Donc, les films se mélangeaient dans mon esprit parce que je les ai pas vus chronologiquement. J'ai peut-être même vu Conversation secrète avant, vous voyez. Mm-hmm. Et, ça m'a marqué. Fait très fort, quoi, mais c'est comme tout à chacun. Mais il y a un temps d'incubation très très long. Après, arrivé le 3, qui est un moment, le Parrain 3, qui est un moment important dans ma vie. Le film dont Serge Danet disait que c'était le meilleur des trois, mais c'était un esprit paradoxal, puisque c'est aussi le film le plus boiteux de la trilogie. Il y a des choses admirables dans le Parrain 3. Il y a des boiteries admirables et d'autres, des gaucheries comme ça, qui sont passionnantes. Mais après, c'est un film que j'ai revisité. Les Parrains 1 et 2 sont des films que j'ai revisités très souvent.
Mais pourquoi? Qu'est-ce qui nous attache aux Parrains comme ça?
Il me semble, hier soir, je me disais, j'avais envie de le rapprocher d'un autre film qui est Fanny Alexandre. Oui. C'est des films où vous retrouvez entièrement parce que c'est des sagas familiales. Et il y en a un qui est, alors, Fanny Alexandre, je le connais mieux que les Parrains. Celui-là, je l'ai vu trop.
Vous avez vu la version cinéma ou la version longue?
Alors, les deux, j'alterne. Ouais. Vous voyez, un an c'est l'une, un an c'est l'autre. Parfois c'est deux fois par an. Je connais vraiment bien. Et j'ai vu la mise en scène de Deliquet au français, l'adaptation qui était formidable aussi. Mais il y en a un où c'est des gens qui habitent un pays. Et ce qui est bouleversant dans le Parrain, c'est que c'est des gens qui... Ces émigrés, ces histoires d'émigrés, donc toutes les communautés émigrées s'y retrouvent. Vous voyez, Sergio Leone qui va filmer après le... Il était une fois en Amérique.
C'est pour ça qu'il a refusé, en fait, le parrain, Sergio Leone. On lui a proposé.
C'est la mafia juive qui l'intéressait, la mafia italienne.
Exactement.
Et vous voyez, j'imagine très bien, si moi j'étais né français maghrébin, mais je me serais identifié à mort. Vous voyez, c'est des films pour émigrés, quoi. Et c'est la première scène du film, c'est le... L'Amérique ne marche pas. C'est le premier monologue. C'est-à-dire le film commence, c'est très étonnant. Vous disiez en quoi c'est le premier film où il y a des prequels, le premier film avec des sequels, etc. C'est le premier film où il n'y a pas de générique de début, puisque maintenant l'usage veut qu'il n'y ait plus de générique de début, alors qu'avant c'était tout un rituel. Et là, il n'y en a pas. Il y a juste le carton.
Il y a un carton.
Et vous commencez sur un gros plan assez austère, et pas du tout avec les vedettes. Vous voyez, alors ça aussi, pas du tout
pas
avec
les vedettes
Brando
attendues,
ou Pacino. Vous avez un acteur que vous connaissez pas, c'est un acteur qui joue ce croque-mort comme ça, qui a un monologue, et qui dit, voilà, j'ai cru en l'Amérique, et l'Amérique m'a trahi. Et donc, c'est des gens qui sont, et l'histoire, elle nous est racontée pas vraiment du point de vue, tout petit peu du point de vue d'Al Pacino, qui est un ancien combattant qui revient de 39-45. Enfin, pour les Américains, un peu plus tard. Et qui revient de la guerre. Et donc, il croit en son pays. Et il revient, il s'aperçoit que sa communauté, les Italo-Américains, n'y croient plus. Qu'il y a quelque chose qui s'effondre. Et il pense qu'il avait ramené la paix, et on a gagné. Et voilà que il retrouve une autre guerre, il va rentrer dans une autre guerre qui est la guerre de sa famille. Alors comme ces histoires de famille, on se projette dedans, évidemment, en pensant, oui, effectivement, au conte de Noël, je me jette dedans, vous voyez, mais je me jette dedans comme un immigré et quand je me jette dedans, dans Fanny Alexandre, c'est comme un natif. Vous voyez, c'est pas exactement la même vibration.
Je voulais coller dans la tête pour la journée, ça c'est fait. Alors Le Parrain, au départ, c'est un roman de Mario Puzo. En 45, à New York, les Corleone sont une des cinq familles de la mafia. À sa tête, Don Vito, joué par Marlon Brando. En face de lui, il y a Solonzo, parrain de la famille Tattaglia, qui lui propose une association dans le trafic de drogue. Corleone refuse, il pense qu'il perdra le soutien des policiers et des hommes politiques, et puis de toute façon, il est contre la drogue. Mais son fils aîné, Sonny, laisse entendre que lui, il serait favorable, et cela déclenche la guerre. Solonzo décide de tuer Don Vito pour que son fils prenne la relève, mais rien ne se passera comme prévu. Vito ne meurt pas, et c'est finalement Michael, le plus jeune des fils, celui qui ne voulait surtout pas se mêler des affaires de la famille, qui prendra la succession, deviendra le nouveau parrain, et sera finalement plus impitoyable que ne l'était son père. Arnaud Desplechin, est-ce qu'on pourrait dire que c'est l'histoire d'un roi qui a trois fils ?
Ah oui, c'est très, l'histoire est très shakespearienne. On pense au roi Lear. Mais enfin, le roi Lear, non, puisqu'il y a la trahison avec les deux. Il y a un seul mauvais fils, c'est le pauvre John Cazale qui n'arrête pas de ne pas suffire.
Oui, mais là, on est déjà dans le parrain 2 et c'est plus Macbeth que.
Ah non, il y a la scène, c'est magnifique. Puis c'est trois fils, il y en a un, puis le casting est stupéfiant, quoi. Ouais. Il y en a un qui a ce physique tellement américain et qui vient du cinéma américain, qui vient de Howard Hawks, qui est James Caan.
Qui est l'impulsif, on peut dire.
L'impulsif, mais qui représente l'Amérique, c'est curieux, parce qu'il joue celui qui est le plus italien des trois frères, et pourtant, il a ce physique américain qui a été voulu par Coppola. Et puis, Pacino, lui, dont les studios ne voulaient pas, vous voyez, ça. En plus, il est d'origine sicilienne, je crois,
oui. Pacino. Ses parents viennent du village de Corleone.
Oui, c'est ça, ils viennent du village de Corleone. Ouais. Lui a ce physique italo-américain qui est très différent, et John Cazale qui est toujours fragile, qui est le frère fragile, et il y a la scène magnifique quand il doit sauver quand son père se fait attaquer, le pistolet choix de ses mains. Il n'arrive pas, il n'arrête pas de ne pas suffire, de ne pas à réussir à être le cadet. Et du coup, alors que Pacino est le benjamin, il n'arrive pas à trouver sa place. Vous me demandiez pourquoi on s'intéresse, parce qu'évidemment, on est tous comme ça, à chercher notre place dans une famille. Donc on se dit, pourvu que je sois plus Pacino que Cazale, et que je finisse pas comme James Caan. Enfin, il y a tout ce jeu, vous voyez, d'identification qui est vertigineux.
Alors au départ, Bob Evans, qui est devenu le directeur de la production à la Paramount, en fait, il a sauvé la Paramount avec Love Story. Mm-hmm. Donc, il a les pleins pouvoirs, c'est open bar pour lui, et pour $12,000, il a demandé à Mario Puzo d'écrire le parrain. Mm-hmm. En fait, c'est lui qui a commandé l'histoire. Mm-hmm. Et il a décidé qu'il voulait un film qui sentirait les spaghettis. Donc, il avait d'abord demandé à Léon qui a dit non, il a même demandé à Costa Gavras, et c'est comme ça qu'on arrive chez Coppola, qui n'a pas du tout envie de le faire, mais qui finalement va se retrouver comme dans le film, c'est le genre d'offre qui peut pas refuser.
J'ai refusé. George Lucas m'a dit « Mais t'es fou ! Et à Zoetrope, on n'a pas un rond. Le shérif de la ville va mettre des chaînes, poser des chaînes sur les portails de notre studio parce qu'on n'a pas payé les factures. Et on t'offre de faire ce film, Le Parrain. Mais fais-le ! Prends le fric. Et après, tu pourras faire ce que tu veux. Tu pourras faire la conversation secrète, tu en as envie de faire ce film, fais ça. Bon, j'ai dit d'accord, t'as raison. J'ai donc accepté, selon son conseil, de faire Le Parrain.
Donc il a adapté, en le transformant beaucoup, je crois, le livre de Mario Puzo. Quand vous adaptez, vous êtes très fidèle ou vous estimez qu'incarner un film à l'écran, ça veut dire le trahir beaucoup ?
Non, vous voyez, suivant la leçon de Romère, ou de Truffaut, je pensais bien de respecter la lettre, vous voyez, parfois. Alors, en même temps, il faut trahir pour pouvoir s'échapper ailleurs. Et parfois, c'est très agréable de vous voyez, vous parliez d'Esther Kahn, c'est qu'il y a une nouvelle très brève, et on s'attachait à une petite parenthèse au milieu d'une phrase, à se dire mais comment est-ce qu'on peut filmer ça ? Mais vous voyez, de s'attacher à la lettre plus qu'à l'esprit du texte. J'aime pas beaucoup les adaptations qui s'intéressent à l'esprit du texte. En gros, l'esprit, c'est ça, on va le faire moderniser. Non, c'est de coller à la lettre du texte me convient mieux, je crois.
Et comment on adapte un écrivain comme Philip Prost ? On ose y toucher ?
Mais justement, j'étais d'une fidélité à la lettre du texte, c'est-à-dire de trébucher quand tout d'un coup il y a quelque chose d'incompréhensible, d'essayer de le comprendre avec de la mise en scène. Donc c'est des exercices d'exégèse sur le texte avec les acteurs ou bien avec les scénaristes, avec Julie Père. Vous voyez, c'est ce travail exégétique, je trouve, c'est la mise en scène, ça ressemble à ça. Pour moi, la mise en scène au cinéma, c'est interpréter. C'est le seul mot que j'ai trouvé en commun pour décrire mon travail et le travail de l'acteur. C'est les acteurs, c'est les interprètes. Et moi, je suis un interprète puisque je regarde. Et puis, je regarde, je sais pas, ce décor du studio. Je me dis, c'est triste, c'est joyeux, c'est menaçant, c'est utopique. J'interprète un décor, j'interprète une scène, j'interprète. Je trouve une clé d'interprétation, une façon de la lire. Et donc, de lire un texte, d'étudier un texte, pour moi, c'est très proche de la mise en scène.
Mais il arrive un moment où on arrive sur le plateau et on oublie tout ça, j'imagine.
Ah, bien sûr, ça. Après, il faut tout mettre. Ouais. Heureusement, il y a les acteurs qui arrivent. Oui, alors quand les acteurs arrivent, bien sûr, la table est renversée. Et puis, on invente, évidemment.
Alors, dans la famille...
Mais je ne crois pas, moi, que Coppola... Il... Le film est tellement personnel. Le Parrain, c'est tellement personnel.
Mais c'est ce qu'il dit. Il dit qu'en fait, c'est un espèce de roman de gare avec des scènes de sexe sans intérêt. Enfin, il le décrit comme un pulp roman, quoi.
Oui, mais à la fin, les films, c'est un tel autoportrait de... Si on va jusqu'au 3, qui est un film malade, il y a des grands films malades. Le film, l'inscription de la famille, de Coppola à l'intérieur du film, pense à son père, c'est Nino Rota qui a composé le morceau que vous jouiez. Mais son père a composé d'autres petits morceaux.
On en entendra de lui tout à l'heure, le Parrain 2, les plus beaux morceaux sont de son père.
Ouais. Il y a Talia Shire qui joue la sœur, qui se marie, c'est la première scène, et c'est la sœur de Coppola. Il y a même sa fille qui clôt le film. Alors on commence avec la sœur de Francis Ford et puis on termine avec, sa fille qui joue le rôle d'un petit garçon.
Ouais.
Le film est... Et puis cette façon de peindre cet héritage italien aux États-Unis. Il y a toutes les histoires de Coppola que je lisais ici et là, de rivalité ou d'admiration qu'il pouvait avoir pour son frère aîné qui était un universitaire très savant et lui étant Coppola Francis, un petit peu le moins brillant de la famille, et puis tout d'un coup devant se retrouver devant et avec le vertige comme à la disparition de Sonny, tout d'un coup Al Pacino doit prendre les rênes de la famille. Il y a une identification très très faite. Il y a un matériel, on voit bien que c'est extrêmement romanesque, que c'est une saga, et pourtant on sent qu'il y a une patte qui est autobiographique dedans et qui est un peu un trait de Coppola. Si on le compare au Nouvel Hollywood, c'est il me semble que c'est un des traits de chez Coppola dans plein de films. Hein, je pense à des films que je chéris comme Garden of Stone et tout ça. Il y a une patte autobiographique chez Coppola. Vous la sentez pas tellement chez Scorsese, chez De Palma pas du tout. Chez Spielberg, certainement, mais elle ne passionne pas. Et c'est pas ce qu'on admire chez lui, quoi. Mais cette façon de s'impliquer dans son film, de se raconter dans son film, et il arrive à se raconter dans cette tragédie shakespearienne, italo-new-yorkaise, je sais pas quoi, etc. C'est ça qui est merveilleux dans le film, qui fait qu'il y a un petit secret. J'ai l'impression qu'on peut tous se projeter dans le film.
Alors, pour raconter cette histoire tellement intime, il tenait absolument à voir Marlon Brando. L'histoire est connue, il y a une grande réunion à la Paramount. Le patron de la Paramount prend la parole et dit « Je préviens toutes les personnes autour de cette table, moi vivant, patron jamais de ce Brando. Studio, Brando jamais. » Coppola se lève, se couche par terre et dit « Bah alors tuez-moi parce que moi je peux pas travailler si c'est pas Brando. » Bref, au bout d'un moment, on lui dit « Écoute, t'as trois conditions. » Il le fait gratuitement. Si c'est Brando, il le fait gratuitement. D'abord, il passe des essais et il met $1 million sur un compte qui bloque parce que c'est un emmerdeur sur les plateaux et s'il y a des ennuis, c'est lui qui paiera pour les ennuis. Donc Coppola dit oui à tout. Il veut aller voir Brando. Comment dire à Brando que c'est un essai? Il va pas lui dire. Donc il essaie de lui dire, en gros, c'est un personnage, faudrait voir si physiquement tu arrives à le faire, si tu te sens bien, etc. Et la suite est merveilleuse.
On était trois à San Francisco, j'ai appelé Brando et je lui dis, c'est un italo-américain de New York et il est plus âgé que vous l'êtes. Brando devait avoir 47 ans à l'époque. Et je lui dis, peut-être que je peux vous rendre visite, venir chez vous et qu'on pourrait faire quelques improvisations. Comme ça, vous verrez si ça vous convient.
This in my mind was the screen test.
Et c'était le screen test, en fait, le test de caméra. Alors il a dit d'accord, il m'a donné son adresse, et je suis allé avec ses copains, on était arrivé très tôt le matin. Je leur ai dit, je ne veux pas un seul bruit, les mecs. Si jamais vous voulez vous communiquer, vous faites des signes, mais je veux que vous comportiez comme des ninjas. On est arrivé, on a sonné, une gouvernante est arrivée. Elle nous a conduits. J'ai installé la caméra. J'avais un sac avec un petit bout de saucisse italienne, un peu de fromage italien, un journal italien, ce genre de petits objets. Et je les dispose là, comme sur cette table. Voilà, je les dispose comme ça, ces accessoires. À un moment, on entend un bruit. La porte s'ouvre, il sort. Il arrive. Il porte un costume japonais. Et il était blond, les cheveux longs et une queue de cheval, un peu comme Val Kilmer dans le film. Il sort. dans sa robe de chambre japonaise. Il regarde autour de lui, il voit les mecs qui sont avec la caméra, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il voit les bouts de saucisses, les bouts de journaux, les machins. Il noue ses cheveux, il prend du cirage et il met ce cirage sur ses cheveux, il les rend bruns. J'avais amené une chemise, il met la chemise. Ah, c'est vrai que leur col, ils ont toujours le col plié de cette façon et resserré. Et il s'est lui donné le visage d'un bulldog. Il met des Kleenex dans la bouche et il commence à faire avec sa veste. Et moi, je filme. Dans ces jours-là, il n'y avait pas de vidéo, on tournait avec du film. Et il commence à faire des gestes. Il fait des gestes comme ça, il prend les petits accessoires et il joue avec. Et le téléphone sonne. Son téléphone. Je me suis toujours demandé qu'est-ce qu'a dû penser la personne au bout du fil. Et ça continue, ça continue. Je le remercie.
And I left.
Et je m'en vais.
I looked at the tape I had. I've never been able to find that tape, my tape. I have what they shot, but my tape was great.
Et moi, j'avais filmé avec ce qui était déjà une petite caméra vidéo, mais j'ai perdu cette vidéo. Mais j'ai, par contre, toujours gardé ce qu'on avait filmé en film, ce que mes copains avaient filmé.
So I took a big chance.
Et là, j'ai pris un grand risque.
I flew to New York.
Je suis parti à New York.
Where the head of the company was a company called Gulf and Western.
Où Gulf and Western avait son siège.
The owner, the boss.
Et Gulf and Western, c'était la société qui était
Charlie Bluehorn.
Qui détenait Paramount. Et Charlie Bluehorn, donc le grand patron, était un drôle de
type.
C'était le début des conglomérats qui possédaient les studios. Et je l'avais rencontré parce que c'était le grand chef.
So I went to his office. I went in the boardroom and I set up.
J'entre dans son bureau.
Betamax recorder for
et j'avais donc ma vidéo et j'installe ma Betamax. Je frappe à sa porte, la secrétaire arrive. Est-ce que je peux voir M. Bluehorn juste deux minutes? Il sort. Il était vraiment dingue. Qu'est-ce qu'il y a?
M.
Bluehorn, je peux juste vous montrer quelque chose? Et j'allume la télé et ça montre Brando qui sort de sa chambre en chemise de nuit japonaise.
Bluehorn looked and said, "No."
Bluehorn dit,
"Non." No, no, absolutely not. He had a funny accent.
Jamais, il avait un drôle d'accent.
Absolutely not. Absolutely. And as he watched,
et je dis, mais attendez, regardez.
That's incredible.
C'est incroyable, il dit.
That's incredible. So once I had sold the boss,
une fois que j'avais vendu ça au grand patron,
you know, that was, and that's how
et voilà, et c'est comme ça qu'on a eu Brando.
Brando qui finalement sera payé 50 000 $, mais avec un joli pourcentage sur les recettes, chose qu'il avait toujours dans tous ses contrats.
Ouais.
Ça vous est arrivé d'avoir des soucis de casting avec, avec une production ou avoir quelqu'un au-dessus qui vous dise « ah non, celui-là, non » ?
Non, pas vraiment. Pour les films que je fais, non, ça va. Je travaille avec le même producteur depuis mon premier film, donc c'est...
Ça paraît dantesque, des histoires comme ça ?
Dans l'industrie, mais c'est le Coppola, quand on lisait toutes ces interviews dans les Cahiers du cinéma, à l'époque où il dirigeait sa société, la Zoetrope, il y a une espèce de match contre les studios, avec les studios contre, de créer son studio à lui, etc. Il y a un truc très politique, et quand je disais sur le parrain 3, c'est à propos de ça, c'est vraiment ça. Donc j'imagine que quand vous négociez avec des studios, vous retrouvez avec des conflits terribles autour du casting. Comme moi, je fais des films plus indépendants, la question ne se pose pas.
Oui, mais quand vous engagez par exemple Benicio Del Toro sur Jimmy P, vous avez affaire aux agents américains quand même, et vous avez affaire à une star américaine.
Oui, c'est vrai.
C'est pas compliqué, ça n'a pas été étrange.
Non, c'était un grand, grand plaisir. Un grand, grand plaisir. Non, c'est pas si compliqué que ça. Non, c'est différent, les acteurs américains, les acteurs français, c'est pas la même culture, c'est pas la même chose. Si vous voulez, il y a un moment de... Pour parler de ça, des acteurs américains, c'est que tout le temps, j'ai des souvenirs vraiment bénis du temps de préparation, vous voyez, avec Benicio. Moi, j'étais à Los Angeles et j'allais chez lui tous les matins et on lisait très lentement les pages, mais toujours cette analyse du texte, cette exégèse, en disant oui, il dit ça, mais pourquoi il dit ça, etc. Mais pourquoi il l'a pas dit autrement, etc. Et de travailler de moments extrêmement créatifs. Alors que en préparation, avec les acteurs français, on s'ennuie très très vite.
Pourquoi ils n'ont pas ce genre de questions?
Non. Non, ils aiment pas ça. Regardez Mathieu Amalric, il aime pas ça du tout. Il s'ennuie, ça marche pas. Et après, par contre, sur le tournage, il faut laisser aux acteurs anglo-saxons, il faut leur laisser la place. Il faut pas venir les embêter. À ce moment-là, le rôle est à eux. Veillez. Alors que pour un acteur, il me semble que pour un acteur français, c'est quand vous êtes sur le tournage, c'est à ce moment-là où vous partagez. C'est-à-dire l'acteur français fait sa cuisine tout seul avant. Et puis pendant le tournage, vous commencez à partager le rôle, il naît de cette petite étincelle. Alors c'est pas exactement le même calendrier que les acteurs anglo-saxons, parce que le moment du partage, il est avant, et par contre le moment où l'acteur est seul, c'est sur le plateau. Et alors ça correspondait avec le budget de Jimmy, puisqu'on était un film de pauvres, on était très très pauvres, mais vraiment très très pauvres. On a tourné le film en 4 semaines, je crois, un truc comme ça. On faisait une prise par plan, donc on ne pouvait pas. C'était une prise par plan, et ce qui marchait avec l'intrigue, puisque c'est la rencontre entre un Amérindien et un Juif hongrois, et donc c'est deux cultures différentes. Et moi, je filmais l'étincelle qui se passait ou qui ne se passait pas entre les deux, et voilà tout. Et donc, on tournait, donc ça marchait très très bien. La technique de Benicio, se mariait très bien avec le thème même du film.
Mmh. Alors, Al Pacino, donc on en parlait tout à l'heure, Al Pacino qui incarne Michael qui revient de la guerre, qui est en retrait des affaires et qui veut surtout pas s'en mêler. Donc, après le combat Brando, il y a eu le combat Pacino qu'il raconte. Le problème, c'est que Francis, il voulait que je le fasse, le rôle, mais personne d'autre que lui ne le voulait.
Donc,
ça a été plus compliqué pour lui que pour moi, finalement. Un jour, il m'appelle et il me dit, j'ai réalisé Le Parrain. C'était quand même le livre numéro un du moment. Donc je me suis dit, mais il est dingue, il rêve, il fantasme. Mais en même temps, je me disais, si c'est vraiment vrai, s'il rêve pas, et ben la Paramount, ils sont vraiment forts de l'avoir cherché parce qu'il est très très doué. J'avais vu ce qu'il avait fait déjà et j'avais repéré son talent. Donc il insistait, eux voulaient pas de moi. Et finalement, ils ont accepté parce que Jerry Schatzberg leur a montré quelques minutes du film que je venais de faire avec lui, qui s'appelle Panic à Needle Park. Donc, après avoir vu ça, ils ont accepté qu'on m'engage. Mais c'était pas gagné. Au bout de 15 jours, ils décident qu'ils veulent quand même me virer, que je ne dégage rien, que je suis pas bon. Donc Coppola vient me dire, écoute, tu sais que je crois en toi, peut-être que tu devrais aller voir les rushs de ce qu'on a tourné. Alors je vais voir les rushs en me disant, bon, de toute façon, c'est cuit, j'ai perdu le rôle. Je regarde, et bon, je trouve pas ça génial, mais je trouve pas ça nul non plus. J'avais beaucoup réfléchi au personnage. Parce que c'est le genre de rôle qu'il exige. La beauté du rôle, c'est la transition de ce personnage. Au départ, c'est un type un peu indéfinissable. Et sans qu'on s'en rende compte, il est devenu cette espèce de leader charismatique. Et ça me plaisait beaucoup, de créer ce personnage énigmatique. Ce qui a été plus dur, bizarrement, c'est de vivre après, avec le poids de ce succès. Il y a vraiment un prix à payer. Et ça a été pire pour Le Parrain 2. À cause de là où va ce personnage, ce qui devient humainement. Et à l'époque, les tournages, c'est des films de 3 heures, on tournait presque pendant une année. Et donc vivre dans la peau de cet homme-là, ça a été assez pesant. C'est une chose à laquelle vous pensez, ça, le poids que le rôle met sur les épaules des acteurs, ou c'est leur cuisine et ça ne vous regarde pas?
Non, ça me regarde. Vous parliez de Emmanuel Salinger qui jouait dans la Sentinelle, qui avait eu le César du meilleur
acteur,
nouvel espoir, acteur, d'espoir masculin. Ouais. Et Voilà, et j'avais vu avec Emmanuel que ça change la vie, quoi. Quand votre image elle est prise, je pense à une réplique quand votre image elle est prise et qu'elle est projetée,
ouais.
Votre vie n'est plus la même parce que vous êtes plus grand sur un écran que dans la salle. Vous voyez, votre image elle est plus grande que vous. Et du coup, ça affecte toute votre vie. Et je pense à une réplique de Léa Seydoux dans Tromperie.
Ouais.
Mon dernier film, ça a dit, je me sentais comme les indigènes à qui on a, qui supportent pas parce qu'ils pensent que quand on les prend en photo, on leur vole leur âme. Moi, ça, j'y crois beaucoup. Et du coup, quand j'avais travaillé avec Mathieu Amalric, j'avais dit, fais gaffe, parce que je l'avais dit, ah bon, ben, un premier rôle, je suis pas du tout acteur, je suis assistant, etc. J'ai dit, oui, mais ce serait pas mal, donc comment je me suis disputé de ça. Alors, je lui avais dit, ta vie sera pas la même. Il dit, si. J'ai dit, non, je t'assure, ta vie sera pas la même. Et donc, je lui avais offert l'intégrale de Bergman en cassette, puisqu'à l'époque, c'était des cassettes, en disant, travaille pour réaliser ton propre film après, parce que ta vie sera pas la même. Et effectivement, toute votre vie est affectée quand c'est très dangereux d'être filmé.
Je me souviens, Émilie Dequesne, après Rosetta, on se doutait qu'elle aurait le prix. Et avant le palmarès, on lui a dit, Émilie, ta vie va changer, vraiment, tu te rends pas compte, ta vie va changer. Et après le palmarès, on est en coulisses et il y a un photographe qui lui dit, je peux te prendre une photo demain? Elle lui dit, mais oui, tiens, mon portable, c'est ça, ça, ça. Et je lui dis, non, Émilie, ça, malheureusement, c'est terminé. Et elle disait, mais pourquoi?
Mais c'est une chose très magique comme ça. J'ai eu la semaine dernière, j'avais un courrier de Louise Roy Le Collinet, Roy Le Collinet, qui jouait dans Trois souvenirs de ma jeunesse, qui avait été nommée et qui avait pas eu l'espoir féminin, mais qui avait été nommée tout à fait glorieusement. Mm-hmm. Et voilà, et elle regardait avec mélancolie, avec inquiétude, avec gratitude en même temps. Et sa vie est changée, bien sûr que sa vie est changée, puisque vous, ailleurs, dans un autre pays, au Japon, en Corée, vous êtes projeté sur un écran qui fait 12 fois votre taille. Évidemment que c'est pas la même vie. Il y a une chose d'alchimie bizarre qui fait que toute la couleur de votre vie en est affectée.
Aux yeux des autres, mais pas pour vous. Vous restez la même personne, même si les autres vous ont vu multiplié par...
Vous avez donné un bout de votre âme, vous n'êtes plus pareil.
C'est vrai.
Ouais.
Alors Pacino, en fait, ce qui a changé sa vie, c'est la scène qu'on va voir maintenant, qu'on va raconter ensemble. La fameuse scène du restaurant. Alors je vous explique. Donc... Al Pacino ne veut absolument pas se mêler des affaires de son père. Malheureusement, il va y être obligé puisque son père est blessé, que son frère aîné a été tué. Le frère du milieu, comme vous le disiez, Fredo, il est incapable d'agir. Et donc, Michael décide qu'il va tuer Salonzo, c'est-à-dire le mafieux sur lequel son père a tiré. Alors, avant d'aller faire ça, ce qui est quand même totalement insensé, le type, il revient de la guerre, il n'y connaît rien, il n'a jamais tenu une arme de sa vie. Et donc, tout le monde le coach et on lui explique. Alors voilà, tu vas aller au restaurant, tu vas te lever pour aller aux toilettes, on va te fouiller. T'auras rien sur toi, t'arriveras dans les toilettes, le flingue sera caché dans les toilettes, tu reviens et dès que tu sors des toilettes, tu tires et tu lâches immédiatement ton arme et tu cours. Évidemment, ça ne se passera pas tout à fait comme ça. Donc Michael est assis à table et il dit, il faut que j'aille aux toilettes. Donc il se lève. Ça va, je peux y aller? Ah, quand il faut y aller, il faut y aller. Alors il se lève et en passant, Salonzo le touche avec sa main, il passe la main entre les jambes. Et le flic à table dit, non, mais je l'ai fouillé déjà, il a rien, hein, tu peux y aller. Alors l'autre lui dit, ok, vas-y, mais pas des plombes. Hein. Et on retrouve Al Pacino qui est aux toilettes. Il est aux toilettes, il pousse une porte, il pousse la deuxième. Il rentre dans les toilettes, il cherche fébrilement derrière la chasse d'eau, il trouve rien. Et puis il finit par trouver, heureusement. Il trouve l'arme, il la prend. Il pousse une porte, la deuxième. On voit la table, le flic qui regarde les toilettes en se disant, bon, ce serait bien qu'il revienne. Pacino attrape l'arme. Pousse une porte. Il revient à table. Et au moment de revenir à table, il y a ce bruit de métro dans sa tête. Il se tape. Il se tient la tête entre les mains. Il va s'asseoir. Donc il fait absolument pas ce qui est prévu. Il tire pas. Il lâche pas l'arme. Il va s'asseoir à table. Calmement. Ça va? Tu te sens mieux?
Mais tu me capisci, non?
Et là, Solozzo se met à lui parler en italien. Tu me comprends, t'es italien, ton père, etc. Et on est en gros plan sur le visage de Pacino. Et on voit bien qu'il n'entend rien, qu'il pense à ce qu'il doit faire. Il y a toujours ce bruit de métro dans la tête. Il a le regard complètement hagard. On se dit qu'il va s'évanouir, avoir un malaise. Et d'un seul coup, il a tué Solozzo. Il tue l'autre, le flic, 2 balles pour le flic. Le restaurant est en sidération totale, la table s'écroule. Il sort. Et ça n'est que au moment de franchir la porte qu'il lève la main et lâche son arme. Le film a basculé, la vie de Michael a basculé et la carrière de Pacino aussi, parce que c'est en voyant les rushs de cette scène que la Paramount décide qu'il peut garder le rôle. Et à ce moment-là, la musique se termine étrangement parce qu'il y aurait dû avoir l'entracte. Mm-hmm. Parce que normalement, contractuellement, au bout de tant de minutes, c'est l'entracte. Et puis Robert Evans a vu le film, il a dit « Ah non, 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 là, on les tient, les spectateurs, on les lâche pas pour l'entracte, on continue.
» La scène est sublime, je la revoyais hier soir, la scène.
La scène est incroyable.
Elle est incroyable. Ce qui est magnifique aussi, je revoyais hier, je pense à deux choses, deux traits, c'est l'extrême classicisme du film quand on le revoit. C'est vraiment un film classique. Et à l'époque, encore, maintenant, plus encore, à l'époque, tout est en, les trois quarts du film sont en plan fixe. C'est filmé avec une rigueur, avec une simplicité.
De tragédie.
Tragédie. Mm. Et c'est vraiment, il y a une modestie également dans le filmage de très 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 forte. C'est ces plans fixes qui s'enchaînent avec un sens de la fatalité qui est sublime. Et je pensais aussi, c'est beau comme une peinture flamande. Je pensais, il y a les lumières de Gordon Willis qui sont à tomber par terre, c'est-à-dire qu'il éclaire par au-dessus avec des petits projecteurs qui où il y a que les visages qui ressortent. Je vous parlais du tout début du film quand il y a le type des pompes funèbres qui a son monologue sur l'Amérique avec ce zoom arrière et peu à peu Brando rentre en amorce et vous voyez que les visages sur un fond obscur. Et on pense à, je sais pas, la Ronde de nuit de Rembrandt ou à la Leçon d'anatomie, et c'est cet héritage flamand. De la peinture flamande que moi je ressentais très fort, peut-être étant né sur la frontière belge, je voyais que, donc c'est les premières peintures que je connais, et cette influence de la peinture du Nord dans ce film qui est tellement italien. Qui m'avait frappé à l'époque et que j'arrive à me raisonner aujourd'hui.
Alors on appelle ça l'éclairage en douche, c'est ça l'éclairage?
Oui, c'est des éclairages en douche comme ça, oui, qui font des lumières comme ça, qui vous font des poches sous les yeux. Alors, comme c'est un film de garçon, ça va.
Oui, c'est pas grave. Alors est-ce que vous savez que Al Pacino en réalité s'appelle non pas Al mais Alfredo?
Non.
Que sa mère l'a toujours appelé Fredo et son père Sonny. C'est incroyable.
Incroyable.
Donc, il disait qu'il était fait pour jouer les trois frères.
Il avait les trois frères dans le
voilà.
Sang.
Ouais. Et alors, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo qui est sur Internet. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la conseille. Mmh. Au moment où on voulait virer Pacino, mmh, ils avaient envisagé que James Caan reprenne le rôle de Pacino et cherchaient quelqu'un pour jouer Sonny. Mmh. Et De Niro a passé des essais pour le rôle de Sonny.
Je savais, mais j'ai jamais vu la vidéo.
Ah, mais la vidéo est incroyable. Il arrive, il a fait un peu comme Marlon Brando. C'est-à-dire qu'il a fait un espèce de catogan en bas. Mm-hmm. Il a un chapeau sur la tête et il fait un essai, mais électrique. Et donc, finalement, rien n'a changé. Mais c'est comme ça que finalement, Pacino,
il jouera le rôle
Coppola
de Vito Corleone.
Lui, voilà, pour jouer Vito Corleone dans le 2. Uh-huh. Mais vraiment, je vous le conseille, c'est assez incroyable. Et alors aussi, histoire drôle, celui qui joue Luca Brasi, l'homme qui finira avec les poissons, l'acteur s'appelait Lenny Montana, il y a eu un casting et Coppola l'a choisi. Et ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en fait, il était un infiltré de la mafia. Envoyé par la mafia pour jouer.
Un ancien lutteur.
Voilà. Et il était très très mauvais acteur. Et il y a cette scène du début où il vient dire, présenter son compliment à Brando. Et il est tellement mauvais que, une fois les roches vues, bon, le décor était rendu et tout. Et la seule chose qu'a trouvé Coppola, c'est 3 semaines plus tard, quand ils ont tourné le mariage, de faire cette scène où on le voit répéter son texte.
Répéter, ne pas y arriver.
Et voilà. C'est du coup, magnifique. C'est normal qu'il soit mauvais. C'est incroyable quand même. Des idées nées de la contrainte, ça s'avère être un des trésors du film.
C'est très beau aussi. C'est un film à vedette. C'est un hommage au jeu américain à travers Brando, la figure tutélaire, et puis tous les autres qui suivent derrière, à l'acteur studio. On verra Lee Strasberg dans le Parrain 2, etc. Et en même temps, tous ces visages qu'on n'avait pas vus représentés, qu'on n'avait pas vu. Vous voyez, vous mentionnez Luca Brasi, qui a ce corps phénoménal, vous voyez, comme c'est lui qui se fait étrangler d'une cruelle façon et qui tombe et qui est tout à fait. Mais je pensais aussi à Ebb Vigoda, qui est un grand type qui ressemble à une asperge qu'on voit beaucoup dans les deux, et qui sont tous ces visages qui sont des visages anonymes de communautés étrangères, quoi, de communautés déplacées, de communautés qui sont pas nés ou dont les parents sont pas nés en Amérique. Et tout d'un coup, il y a ce mélange de ces visages anonymes et qui sont très très présents et de ces visages très très connus. Vous passez des visages connus à des visages inconnus et c'est un plaisir d'une sensualité très très grande.
Alors vous parlez de Mathieu Amalric tout à l'heure. Je suis allée lui demander qu'est-ce qu'il pensait du Parrain.
J'ai jamais vu aucun des trois films sur grand écran. C'est lié à la VHS d'abord. C'est lié aux enregistrements la nuit où tu écrivais à la main sur les cassettes VHS. Et après, est arrivé les VHS où on pouvait programmer l'enregistrement pendant son absence. Mais c'est une révolution. Et je les ai vus d'abord comme ça. Pour moi, ça a été immédiatement de la tragédie grecque. Même adolescent, je l'associais à de la mythologie. Pas du tout à des histoires de fascination pour les gangsters. C'était aussi la comparaison avec comment Scorsese fantasmait les gangsters et comment Coppola ne les fantasme pas, d'après moi, mais parle de nous, je ne sais pas pourquoi, c'est la famille, voilà. Et arrivé plus tard, les DVD. Et pour moi, Le Parrain, c'est ce grand coffret que j'ai toujours avec les bonus. Et il y a une chose qu'on partage avec pas mal de collègues, c'est Coppola qui parle. Tu peux regarder le film et il y a un bonus où Coppola commente tout le film, les trois, et il explique. C'est une leçon absolument phénoménale. Et ensuite, dans ce coffret, là il est filmé, hein, et il montre chez lui ses outils de travail, le scénario. Et il explique comment il prépare une scène. C'est quoi la scène? C'est quoi la scène? Voilà, règle 1. J'en ai oublié quelques-unes, mais je me souviens. Après, les problèmes que j'aurais, techniques, de décor, de régie, de temps. Vraiment, il s'occupe concrètement de ça. Quels sont les pièges de la scène? Et tout ça en nous montrant le document écrit, donc tapé à la machine, hein, et avec son écriture. Et ça, tu vois, ça me donne envie de le revoir. Je crois que ça fait trop longtemps, je vois bien que j'en ai oublié. Mais lorsque je suis sur un plateau, dans une situation de tournage comme réalisateur, je repense à ce coffret de DVD du Parrain. Qui m'a à la fois donné envie de faire de l'artisanat de cinéma. Le génie, c'est dans l'artisanat. Et c'est vraiment ce coffret. Mmh. C'est comme s'il m'avait passé une boîte à outils. Tu vois, si je pense au film, il me vient évidemment Al Pacino jeune, dans le 1. Ce jeune acteur dont personne ne voulait la rencontre avec Diane Keaton. C'est pour ça que j'aime le 3, hein. C'est parce que il y a quelque chose du personnage du tout début qui revient un tout petit peu vers la fin. Parce qu'il est tellement monstrueux dans le 2. Et je pense au mariage, la scène du mariage au début. Où il s'assoit à peine sur une chaise à côté de Diane Keaton. Et j'étais très amoureux de Diane Keaton parce qu'elle était liée à Annie Hall pour moi. Après, ce qui est fabuleux aussi quand même dans Le Parrain, ça, c'est la force quand même de Coppola, on n'y pense pas souvent. C'est la beauté de ses dialogues. C'est pour ça que c'est de la tragédie. Il n'y a pas un mot qui sert à rien et c'est des phrases d'une force. Et puis le trop. Ce qui est bien aussi avec Coppola, c'est qu'il y a à la fois une sobriété et il y a déjà quelque chose de Sergio Leone.
Oui, c'est vrai.
Dans le temps étendu, évidemment, la scène du péage. Où tu dis, bon, ça va les gars là. Ah ben non, non, bah, non, non, allez-y, ouais. Oh, c'est tellement quand on était dans sa chambre avec son frère et qu'on s'amuse à tirer. Ben voilà. Et, je suis pas encore mort. Je suis pas. Ah, non, attends, là t'es mort là quand même. Là t'es mort. Non, non, tu m'as pas eu. Non, écoute, tu triches.
Qu'est-ce qui rend un film à ce point inépuisable ? Ça se niche où ?
Ça se niche dans le fait que le temps passe, qu'on change, et que donc on ne voit jamais un film de la même manière en fonction de ce que l'on a vécu.
Vous êtes d'accord, Arnaud Desplechin ? Ah, le temps surtout, change les films ? Surtout ce qu'il dit.
Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'aussi, c'est ça qui est très troublant dans le film, c'est qu'il a filmé, il a filmé les acteurs qui vieillissaient.
Mais c'est ça qui est magnifique dans le 3. Oui, ça n'arrive
rejoint,
jamais.
Ça que nous, ouais. Nous, on vieillit, mais entre le 1 et le 2, déjà, on voit le temps qui passe. Qui,
le poids.
Le poids, on voit les strates de jeu. Je parlais de l'inscription de Strasberg, et puis après arrive Brando, et puis après arrivent les nouveaux acteurs de la méthode. Et donc vous voyez des strates de temps qui s'accumulent, des strates de vie d'acteurs, et vous mesurez votre propre vie au vieillissement des acteurs eux-mêmes sur l'écran. C'est magnifique.
Vous êtes fier d'avoir créé Mathieu Amalric, parce que c'est quand même grâce à vous.
Oh, c'est lui qui m'a inventé, vous savez. c'est pas. Non, j'avais besoin de. Après la Sentinelle, j'avais besoin de m'encanailler. Vous voyez, c'est un film trop raisonnable. La Sentinelle, c'est un film extrémiste, mais trop raisonnable. Et j'avais envie de m'encanailler. Et du coup, on s'est encanaillé l'un l'autre. Et puis c'est passé tout seul. Je sais jamais qui dirige qui. J'aime pas beaucoup le mot diriger. Ça décrit pas bien le travail avec l'acteur. Ça décrit pas bien.
Et le scénario, est-ce que pour vous, c'est comme pour Coppola, un journal? Il y a un nouveau journal qui sort tous les jours.
Ce bonus-là, j'écoutais Mathieu et je me rendais compte que j'avais. J'ai vu ce bonus-là, moi qui les regarde pas tellement, mais celui-là, je l'ai vu. Effectivement, mes scénarios, j'ai tout un rituel. C'est imprimé sur des grandes pages. Et c'est réécrit tous les soirs, c'est noté. On commence par toujours ce travail d'exégèse du texte, d'interprétation, de trucs, de dessins dans les marges, tout ça. Donc j'ai des grands cahiers avec des plans, des post-it de partout et des croquis dans tous les coins pour développer, pour modifier le scénario. Et ça c'est des héritages de Coppola, bien sûr, parce que les bonus sont devenus cultes, quoi.
Alors moi j'aime beaucoup le Parrain 3. J'adore le 1. Mais je trouve que celui où il réussit le mieux la fin, c'est le 2. Alors, je vous resitue la scène. Michael Corleone, donc Pacino, Michael, s'est séparé de sa femme puisqu'elle lui a avoué que non, elle n'a pas fait de fausse couche, elle a volontairement avorté de son fils. Donc il est seul dans cette grande maison, il y a sa sœur qui est revenue, qui s'occupe de tout comme s'occupait sa mère avant. Et il sait que c'est son petit frère Fredo qui, sans l'avoir voulu, l'a trahi. Mais c'était vraiment sans l'avoir voulu, par faiblesse. Et il refuse de lui pardonner, il décide de le faire tuer. Fredo est sur une barque, il pêche, il y a le tueur derrière lui, il pense que c'est juste le type qui s'occupe du bateau, il sait pas qu'on va le tuer. Il a pris cette habitude, Fredo, quand il pêche, de dire « Je vous salue Marie », c'est sa dernière pêche. « Je vous salue Marie, pleine de grâce », donc. « Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners ». On entend le coup de feu. Et Pacino, lui, il est derrière la vitre de sa maison. Il a entendu le coup de feu. Il voit sur le bateau, il n'y a plus qu'une seule silhouette au lieu des deux. Et Pacino, simplement, il baisse la tête. Un plan sur la barque en pleine mer. Pacino est maintenant assis dans son fauteuil. Il met la tête en arrière. Il se passe la main sur les yeux, comme souvent. Et là, en surimpression, on voit le visage de James Caan. Et venez voir, je vous présente. Rizzi. Voilà mon frère Fredo, vous vous connaissez, je crois. Mon frère, Tom. Cette jolie fille là, c'est ma sœur, Connie. Tom. Oh, that droopy thing over there, that's my brother. Et le type qui fait la gueule là-bas, c'est Michael, mon petit frère. Asseyez-vous. Parlez-vous tous les deux. Donc, Connie parle avec celui qui sera son futur mari. Et voilà le gâteau. Le gâteau arrive parce que c'est l'anniversaire de Don Corleone, un anniversaire surprise, et donc les enfants ont acheté un gâteau. Le gâteau arrive dans une boîte en carton. Formidable, beau gâteau, il y a des couleurs partout.
Yeah, go on. You help her, right, Carlos? Hey, what is that, rum?
Il y a du rhum dedans, oui, oui, il y a du rhum. Tout le monde est là en affaire et Michael est assis à table, il fume une cigarette, il bronche pas, il est le seul à pas s'intéresser à ce qui se passe. Non, non, elle dit à Connie, dit à son frère, arrête de grignoter, attends que papa arrive. Et Tom dit, qu'est-ce que vous pensez des Japonais là, qui vont nous envahir? Ça va être la guerre.
We should have expected it after the oil embargo.
Fallait s'y attendre de toute façon. Et Sonny dit, mais enfin ça va pas, ils ont pas le droit de nous jeter des bombes, c'est n'importe quoi. C'est vraiment des crétins les gens qui vont à la guerre. Mais on a dit qu'on parlerait pas de la guerre. Écoute, je fais ce que je veux. Hein. C'est des cons, je te dis. Les gens qui vont à la guerre risquent leur vie, c'est des crétins. Michael dit, oui, c'est pas comme papa, quoi. Bah oui, alors. Bah oui, mais ils partent pour leur pays. Mais si tu crois qu'ils partent pour leur pays, bah t'as qu'à y aller, hein. Bah c'est fait. C'est fait. Je me suis inscrit, je pars dans les Marines. Mais Tom lui dit, mais pourquoi tu nous as pas parlé? Ton père s'est donné tellement de mal pour que tu sois pas à l'armée, que tu sois réformé. Oui, mais je voulais pas être réformé, je voulais aller me battre. Et là, Sonny devient dingue, lui dit, mais enfin, t'es un connard, qu'est-ce que tu fais? Tom le retient. Tom est effondré, Tom Hagen, l'avocat. Et la petite fille derrière crie, maman, maman, papa s'énerve encore. Il est furieux, Sonny, il dit à sa sœur, va avec Carlo, va lui montrer le sapin de Noël. Et il reste à table, donc il y a juste Sonny, Tom Hagen et Michael qui continuent à fumer ses cigarettes, qui ne regardent personne. Il regarde devant lui, il regarde ses mains. Sonny est furieux. C'est une belle surprise pour papa le jour de son anniversaire. Il va être content. Hein. Formidable. Bon, j'ai besoin d'un verre, moi. Tu vas briser le cœur de ton père le jour de son anniversaire, quand même. Il avait des plans pour toi, ton père. Il m'a souvent dit qu'il avait vraiment des grands espoirs sur ton futur. Ah ouais, mon père, il parlait de mon avenir. Michael a enfin levé les yeux et regarde Tom. Bah moi, j'ai mes plans à moi, pour mon avenir. T'es vraiment un crétin, dit Sonny. Ah, il est là, le voilà. Viens, allons-y. Tout le monde s'en va. Michael ne bouge pas, il reste à table. Il fume toujours une cigarette, il regarde toujours ses poignets. On entend les gens qui s'affairent au loin dans la maison. Joyeux anniversaire! Ça chante. Et là, on se retrouve sur Michael. Tout seul dans le jardin. Le jardin est désert, il y a les enfants qui ont laissé des jouets, et c'est fini. Alors vous savez que dans cette scène, Brando devait revenir. Mm-hmm. Et puis pour les problèmes de contrat d'argent, il n'est jamais revenu. Et c'est tellement beau qu'il ne soit pas là. Ouais, on sent magnifique. Sa présence sur la scène tout le temps.
Ça me plaît parce que vous présentiez la scène en disant c'est la plus belle fin des trois parrains, alors que on sait à quel point je mets de côté l'épilogue du parrain 3, ouais. Mais le final avec le baptême du parrain 1 est virtuose, à quel point la scène de l'opéra du parrain 3 est virtuose, ouais. Également, et celle-là c'est juste un bout de souvenir volé. Vous voyez, qui ne sert à rien.
Ben si, ça sert à quelque chose. C'est comme le pré-générique. Non, mais en plus, c'est le pré-générique du 1. Uh-huh. Parce qu'il va partir à la guerre. Et après, dans le 1, il en rentre. Ouais. Donc, il a essayé
d'échapper à sa famille et il y retourne.
Il a explosé la structure tellement qu'il fait le présent du 1, le passé, l'avenir du 2. Et à la fin, il arrive à nous ramener avant même. Enfin, c'est de la folie.
Non, c'est incroyablement délicat, mais ça se termine pas forté. Ça se termine comme ça sur un bout de souvenir, comme ça au moment où il tue son frère. La scène de l'assassinat de son frère est sublime. Ce qui sera le sujet du parrain 3 et sa confession devant le pape et tout ça, toute cette scène-là. Mais c'est pas forté, quoi. Ça se termine alors que le film est absolument somptueux. Le Parrain 2 est absolument somptueux, déborde de partout, traverse les époques, etc. Et il se termine par un bout de souvenir qui me semble, à moi, qui me semble comme volé. Et pas raisonnable. Il vole ce jour-là où il fait tuer son frère. Il vole ce bout de souvenir où il s'était engagé à l'armée en pensant échapper à sa famille. Et puis la vie l'y aura ramené et voilà tout. Et ça s'arrête avec ce gâteau d'anniversaire, l'absence du père qui est dans le couloir qu'on attendait, qui travaille, et voilà. Et le père, est-ce qu'il est chef de la mafia ou est-ce qu'il est représentant de commerce? Allez savoir, il est pas là, c'est le papa, il travaille, quoi. Il est au travail, il revient. Et il a le souvenir qu'il regardait ses poignets sur une table, le jour de l'anniversaire de son père, et voilà tout. Et c'est effectivement de terminer comme ça, pas sur un bang, mais sur...
Il va du spectaculaire au plus intime possible.
Ça se termine sur un soupir, quoi. C'est une fin merveilleuse.
On va demander à Jean-Luc Godard ce qu'il pense de tout ça.
Je veux dire, c'est bien gentil de répondre à ces questions.
Bon alors, Jean-Luc Godard, que pensez-vous du Parrain?
J'en ai regardé des séries avec Facino et d'autres, comme ça peut-être, mais non, pas de films qui ont changé le monde.
Pas de films qui ont changé le monde pour Jean-Luc Godard, mais oui, mais changer notre regard sur le monde, c'était ma définition de l'émission. Alors là, vous voyez, ça c'est un morceau de Carmine Coppola, c'est dans le 2. Ah. Et je trouve que c'est le plus beau thème du film.
Ah, il est très très beau.
Il va bien accompagner notre questionnaire. Arnaud Desplechin, quelle est la première séance dont vous vous souveniez?
J'arrive pas à distinguer les souvenirs de télévision des premières. Ici, c'est mon père me chuchotant chez ma grand-mère en me disant, tu vois, ça c'est un chef-d'œuvre, ça c'est un chef-d'œuvre. Et c'était le Jeanne d'Arc de Dreyer. Et la première fois que j'étais au cinéma dans une salle, c'était avec mes grands-parents, l'autre côté de ma famille, et c'était avec ma sœur aînée, et nous avions été voir Fantomas, et ma sœur a vu tellement, avec Jean Marais et Louis de Funès, et ma sœur a vu tellement peur qu'on avait dû partir avant la fin de la séance, j'en étais furieux.
La dernière séance qui vous est marquée?
Je les confonds toutes deux, c'est Annette et Titane. D'accord. Que j'ai vu, donc deux films français, ouais. Et il y a sidération absolue devant Annette et une leçon de liberté dans Titane d'implication qui m'ont empli complètement.
Votre film de chevet?
Film de chevet, ça je sais pas répondre. Je sais pas répondre parce qu'il y en a trop. Ça change pas tous les jours, ça change plusieurs fois dans la journée.
Aujourd'hui, ce matin.
En ce moment, je travaille Magnolia beaucoup de Pity Anderson, ouais. Et Les Fioretti de, parce que j'ai le DVD Criterion Les Fioretti de Rossellini. Des films qui ne sont pas exactement pareils, qui jouent sur des régimes très différents.
Le film dans lequel vous aimeriez vivre?
Dans lequel j'aimerais vivre, peut-être je pourrais dire... Non, ce serait Fanny Alexandre. Fanny Alexandre. Dans celui-là, je veux bien vivre.
Dans la version longue, du coup?
Oui,
pour vivre plus longtemps.
Oui, pour avoir.
Le classique qui vous laisse de marbre?
Il y en a un que j'arrive pas à comprendre, c'est Antonioni. Je suis totalement...
Deuxième fois que ça revient, ça, Antonioni.
Ah, je peux pas. Sauf l'Aventura, que j'adore, mais sinon, je ne comprends pas.
Blowout, quand même.
Ah non, pas du tout. Non. Ça me laisse de marbre. Oui. Ça me laisse froid. Je pense toujours à cette phrase, vous savez, que j'ai trouvée manuscrite dans les tapuscrits de Truffaut avec une petite note qui était agrafée pour Gruot, et il disait mais quelle honte, quel scandale, en commentant le travail de Gruot, il disait quand même je suis pas Antonioni, moi je mets pas 4 minutes pour dire une seule idée, moi je mets 4 idées chaque minute. Et voilà, du coup moi quand je vois une idée toutes les 12 minutes chez Antonioni, ça me rend dingue.
La pépite que personne ne connaît?
Que personne ne connaît, je sais pas, moi dans les films de mon année, il y aura compté très certainement Three Comrades de Frank Borzeggi, qui est écrit par Fitzgerald, et que je tiens pour un film encore supérieur sur la montée du nazisme à Mortal Storm, qui est le film le plus connu, qu'on connaît, avec James Stewart, et qui est très très beau. Mm-hmm. Mais Three Comrades, c'est une telle délicatesse d'écriture, c'est filmé, c'est à tomber par terre.
Votre voix de cinéma préférée?
Voix de cinéma, quand j'ai lu la question, je ne pouvais penser que à Delphi Steric, vous voyez, c'était pareil. Donc c'est un cliché, mais c'est comme ça, c'est une voix qui nous manque par la voix. Vous savez, c'est la scène, c'est affreux, vous savez, c'était la scène dans L'Incompris de Comencini où le jeune orphelin, son père a des enregistrements de sa mère et qu'il écoute en pleurant la mort de sa femme. Et un jour, le fils maladroit va pour entendre la voix de sa mère, il appuie sur Rec, Record, et il efface la voix de sa mère.
Ouais.
Voilà. S'il y avait plus, si on effaçait la voix de Rig, ça serait une blessure aussi forte que la disparition de la voix de votre mère.
Votre salle de cinéma préférée?
je suis lié au cinéma du Panthéon, et pourtant je dirais le Grand Action, parce que c'est là où j'ai découvert des chefs-d'œuvre incroyables.
Votre prochaine séance?
Ma prochaine séance, je croyais que c'était Wes Anderson, mais du coup j'ai regardé sur Allociné, et puis j'ai regardé les affiches en venant vers ici, il y a Drive My Car
qui va sortir
la semaine prochaine.
Votre vœu cinéphile?
Mon vœu cinéphile, ce serait que pour que les films existent, qu'il y ait une écologie des images, il faut apprendre à les commenter, à les discuter, à les partager comme ce qu'on faisait ce matin. Et pour moi, la base de ça, il y avait un savoir français qui s'est perdu, et c'est que le savoir français soit retrouvé, qui était de programmer des films à la télévision. Et je pense que moi, enfant de province, j'aurais jamais connu le cinéma s'il n'y avait pas eu Patrick Brion et Claude Jean-Philippe. Et c'est d'apprendre à montrer les films dans quel ordre, comment, de les ouvrir aux spectateurs. Donc c'est pas de, les œuvres, elles existent. Regardez, j'ai dû voir Titane, Annette, etc. D'accord? Mais comment on va les montrer après? Et c'est que ce savoir de montrer des films reprenne une nouvelle vitalité avec les nouvelles générations.
Merci Arnaud Desplechin. Je me dépêche. Émission réalisée par Doria Zénine, préparée par Lila Bozos et mise en onde par Élise Le. À demain avec Jean-Luc Godard.